Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Je ne sais pas si vous êtes tous dans la même classe, si on s'est déjà rencontrés tous ou pas.
Anaïs Dune, artiste en résidence au lycée horticole de Blois en 2024.
Ouais, et il y en a que j'ai pas du tout rencontré encore. Hein. Là. Ouais, ok. Donc, je suis en résidence artistique. Donc...
Par-dessus la haie, 20 ans de résidence artistique en lycée agricole.
Et donc, je voulais vous proposer de venir faire du modelage avec moi, si vous voulez bien. L'idée, c'est de s'inspirer du vivant qui est un peu microscopique et donc du coup de fabriquer des petits volumes, donc des petites sculptures en argile et de les laisser sécher et puis on les fera cuire par la suite. Et ça va faire partie d'une grande installation que vous avez vue, non? Et alors, est-ce que quelqu'un aimerait venir?
Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat et Pauline Mocor.
Vous voulez pas venir?
J'ai commencé à enseigner et ça a été très compliqué parce que justement enseigner en collège par exemple, c'est un espace où les arts plastiques n'ont quasiment pas de place. On a vraiment l'impression que tout le monde s'en fout.
Gaëlle Villedary, artiste en résidence au lycée horticole de Blois en 2021.
L'administration, les parents d'élèves. Et je me suis retrouvée dans cette situation avec cette envie de transmettre, mais avec quelque chose que je sentais complètement enfermé, où je ne me sentais pas à ma place. Par contre, à ce moment-là, j'ai vu un élève qui était en train de dessiner avec un plaisir immense, et j'ai senti qu'à l'intérieur de mes tripes, ça se débloquait complètement pour moi-même. Et ce jour-là, en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à dessiner comme jamais je m'étais autorisée à dessiner. J'ai eu l'impression vraiment de trouver mon geste, mon dessin. Grâce à un élève. Et c'est vraiment le démarrage de ma pratique artistique à partir de là. Voilà.
J'ai hésité un peu parce que j'avais des choses à faire, mais après, Agathe qui m'a regardé, elle a fait « Viens, on y va, ça peut être intéressant, ça va être cool à faire ». Et du coup, après, j'ai embarqué Constance avec moi. Alors, je m'appelle Noam Demera. Je suis un élève du coup en vendeur en animalerie, donc en CVPA, je suis en seconde. Donc l'atelier qu'on a fait, c'était avec de l'argile. Elle nous a expliqué différentes techniques avec différents matériels pour pouvoir sculpter l'argile en différentes formes, en des formes de parasites, de bactéries.
Et donc si vous voulez imaginer votre forme dans l'espace, il faut imaginer que le trou, s'il est centré, par exemple, s'il est centré sur ta forme là, bah, il va être dans l'espace comme ça. Si tu veux le mettre...
L'éducation socioculturelle est une matière spécifique au lycée agricole. C'est dans ce cadre que sont accueillis les artistes en résidence.
Oh là là, regarde.
Les jeunes d'aujourd'hui.
Mais les jeunes de nos jours.
Ça m'a plu, beaucoup plu. C'est vrai que ce jour-là, j'étais énervé. Ça m'a, on va dire, apaisé de... d'être avec mes amis, d'être avec une artiste en train de faire son métier. Donc, j'ai beaucoup aimé surtout sculpter l'argile. Parce que là-bas, en fait, c'est très je savais pas que c'était apaisant. Parce que ça nous permet déjà de découvrir un monde qui n'est pas, entre guillemets, le nôtre, parce qu'on ne connaît pas vraiment. Ça peut être très important et très bien d'avoir des cours d'art en cours.
Valérie Rinteau, chef d'établissement.
À quoi ça peut bien me servir, en fait, quand je travaillerai dans une ferme, auprès des animaux, ou quand je vais aller cultiver des végétaux? À quoi ça peut bien me servir, finalement? Moi, je leur dis que, dans tous les cas, quelle que soit la profession qu'on peut avoir, il faut être ouvert, il faut être ouvert culturellement aussi. On apprend beaucoup en écrivant sur du papier, en écoutant un enseignant. Là, c'est aussi un moyen d'apprendre des choses autrement à travers un projet qui se déroule dans l'établissement. On échange avec des personnes qu'on ne connaît pas. On apprend, on reçoit aussi des choses. Donc, c'est ça qui est important, il me semble.
Je me souviens d'un élève, notamment, qui, à chaque séance qu'on avait ensemble, me disait que ça ne servait à rien, l'art. Et à la fin des 3 mois de résidence, ce temps de restitution finale où je leur ai demandé carrément d'aller jusqu'au bout et de présenter eux-mêmes l'œuvre à leurs camarades, à ceux qui étaient là ce jour-là. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que quelque chose s'était produit, la façon dont ils s'étaient emparés de la parole pour expliquer leur travail et l'œuvre, l'intention à la fois théorique et pratique, m'a convaincue que voilà, la chose s'était produite. La fierté qu'ils avaient dans les yeux. Et puis, cet engagement à prendre la parole pour des adolescents qui parfois sont sur des chemins un petit peu compliqués, qui ne sont pas sûrs d'eux, des difficultés parfois de comportement. Donc là, vraiment, c'était flagrant qu'ils étaient à la fois heureux de l'expérience, fiers de leur réalisation et qu'ils en avaient compris la substance. Une fois qu'on a modifié cet espace-là, il me semble que ça dure longtemps, quoi, que c'est pour la vie, que c'est quelque chose de précieux qu'ils ont en eux.
Et alors la porcelaine, quand elle cuit, plus elle est fine, plus elle peut être transparente. Wow. Elle peut laisser passer la lumière.
Par exemple.
C'est pas grave, on en fait trop.
Si ça traverse, aucun problème.
Ah. Ça veut dire ça.
Mais là, t'en as fait un là.
Oui.
Qui traverse.
Oui, mais là-dedans, il y en a aussi un qui traverse. Donc.
Ouais. Mais là, c'est une seule pièce.
Oui.
Ouais.
C'est la première œuvre participative, en tout cas dans mon travail. Tout mon travail est un peu baigné de, justement, l'action de l'homme sur son environnement, donc plutôt des échelles industrielles, ou enfin, en tout cas, les impacts voilà, à grande échelle, quoi, de destruction, de pollution. Et en fait, moi, l'idée de fabriquer une œuvre comme ça qui soit... pour parler de pesticides, d'insecticides, mais de la construire collectivement, en fait, pour moi, c'est comme si ça remettait de la vie là où j'arrivais peut-être plus à en trouver, enfin, ou en tout cas, le fait que ce soit collaboratif, du coup, c'est comme si on portait collectivement une parole quelque part, ou en tout cas, c'est inscrit en volume quelque part.
Là, on va se faire on va faire un petit atelier avec Camille en lien avec sa résidence sur la fabrication d'un livre, d'un fanzine. Donc aujourd'hui, il y a un micro-objectif, réalisation d'un petit livre. Bon, ben, je me tais maintenant, enfin j'essaye.
Ouais, du coup, c'est mon tour.
Allez, vas-y.
Alors, je vous avais déjà parlé, je pense, lors de ma première présentation, que j'avais deux pratiques. Une pratique qui était plutôt sculpturale, que je vous avais présentée en visuel. Mais en fait, à la base, moi aussi, j'ai eu une formation de design graphique et à la base, je m'intéresse surtout à toute la partie métier du livre.
Camille Barbé, donc, artiste en résidence au lycée agricole de Chartres-la-Saussée en 2025.
Et il y a une partie que j'adore, en fait, dans la partie métier du livre, etc. C'est la partie fanzine. Est-ce que vous savez ce que c'est un fanzine ? J'ai jamais entendu ce mot-là. En fait, un fanzine, pour donner une définition très rapide, en fait, un fanzine, c'est un petit livre, voilà, auto-édité. Ok ? Est-ce que vous savez ce que c'est un haïku ? Ouais,
tu veux dire ?
Ouais, c'est ça, un tout petit poème, c'est ça, c'est japonais. Et donc, c'est des poèmes en trois lignes, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, d'accord ? On va essayer de faire quelque chose de très rapide.
La résidence d'artiste, on peut se demander à quoi ça peut bien servir, en fait.
Valérie Rintot, chef d'établissement.
On sent bien qu'ils ne sont pas tous éduqués, en fait, à l'art, à la culture, parce que socialement, ils viennent d'horizons quand même très, très différents. Et pour certains, leur éducation fait qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un musée, au cinéma, au théâtre. Et on sent bien qu'ils ont aussi besoin de découvrir tout ça à travers des projets qui ne soient pas obligatoirement des projets qu'on va travailler en salle de classe, en groupe classe, où on est assis sur une chaise et on doit réfléchir avec un enseignant. C'est aussi travailler autrement.
Marc-Aurel Charbonnel.
Moi, je suis prof technique d'aménagement paysager. C'est-à-dire que j'apprends aux gamins à faire des gazons, je leur apprends à faire de la maçonnerie, je leur apprends à utiliser les machines, etc. Hein, donc on n'a pas le regard des artistes, on n'a pas leurs yeux. Nous, ça nous aide aussi à voir les choses différemment et à voir les apprenants différemment aussi. Parce que, avec le regard de technicien, on oublie de regarder un tas de choses. Notamment les yeux des apprenants qui nous disent un tas de choses sur eux, quoi, qui nous disent s'ils se sentent bien, s'ils ne sont pas anxieux, s'ils sont relativement à l'aise avec ce TP, s'ils n'ont pas peur de se faire mal, etc. Ça, on l'oublie complètement quand on est technicien, parce qu'on est justement sur les aspects sécurité. Est-ce que la machine ne va pas se bloquer ? Est-ce qu'il n'y a pas des bracelets qui traînent et qui risqueraient de faire en sorte que voilà, une main soit prise dans le mécanisme? On est là-dessus.
J'étais très très bizarre pour eux, pour elle et eux, parce que j'étais une adulte, mais en même temps, je n'avais pas du tout des attitudes d'enseignante, d'enseignant. Enfin, on a créé une relation qui fait qu'avec certains et certaines d'entre eux, mon atelier est devenu une sorte d'abri expérimental où ils pouvaient venir se poser puis avoir d'autres types de conversations.
Pascal de Sénard-Clins, artiste en résidence au lycée agricole de Beaune-la-Rolande en 2022.
Quand on est un élève qui se retrouve dans un lycée agricole, pas parce qu'on rêve d'être agriculteur ou agricultrice, mais peut-être parce qu'au fond, on ne sait plus quoi faire de nous, parce qu'il y a des générations d'agriculteurs et agricultrices derrière nous, parce qu'on est un peu hyperactif, puis qu'on se dit qu'il faut qu'on se mette, voilà, pour différentes raisons, puis qu'en fait, on n'a pas arrêté de nous dire qu'on était quand même un peu débile. Moi, je l'ai entendu, hein, quand même, de différentes, voilà. Et comment est-ce qu'on peut se construire dans la vie quand on l'a entendu, quand on l'a ressenti? Et moi, l'idée, c'est de dire, ben, le débile en toi, c'est celui qui est le plus intéressant, si ça se trouve, donc fais péter ton débile.
Je vais vous laisser juste 10 secondes pour réfléchir à ce que vous allez faire, et ensuite 30 secondes pour dessiner. Pas plus. On a choisi du coup des thématiques, ce que j'appelle les thématiques un peu entonnoir, c'est-à-dire que c'est assez large pour vous donner plus de liberté, mais par contre, ça va vous pousser du coup à faire quelque chose de très rapide. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Donc, le premier thème pour le dessin, ça sera soleil. Ok ?
Je sais pas dessiner.
Julien Clément, professeur d'ESC.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça les met en difficulté, notamment par rapport à l'exercice de la pratique du dessin. Ça les bouscule, l'exercice de la spontanéité, d'essayer de la contrainte de la durée. Je trouve ça intéressant parce que justement, ça les décoince un petit peu par rapport à ces questions-là. Ils se prêtent au jeu. Ça raconte quand même leur confiance qu'ils peuvent avoir dans ce qu'on leur propose, en tout cas avec ce groupe.
Donc, si vous voulez modifier après, vous pouvez modifier après. Là, du coup, on est plus sur la contrainte de temps.
J'aime la lune, les étoiles filantes et les soleils noirs.
Mais c'est bien aussi.
Ils se prêtent au jeu et ils sont appliqués. Je les trouve très appliqués, consciencieux, sérieux, globalement.
À toi, petit oiseau, qui vole libre et au vent, fais bien attention.
Ma chambre remplie d'oiseaux, le monde est un oiseau, ma mère est un oiseau.
Oiseau à l'immense fierté, dresse ses ailes droit devant vers l'éternel.
Je suis arrivée, il s'envola dans les airs, ses plumes tombent sur le sol vert.
Je pense que tout au long, ils n'ont pas très bien compris ce que je voulais faire. Et puis à la fin, quand il y a eu la restitution et la double installation, vraiment, ça claquait, entre guillemets. C'était vraiment, les deux faisaient œuvre de manière très, très différente, mais ce n'était pas une peinture. Et donc là, ils se sont rendus compte qu'en fait, ben, ils avaient pu faire puisqu'ils avaient fait. Et je pense que pour eux, l'art, ce n'était pas ça à la base. Ils s'imaginaient que c'était très basé sur un savoir-faire. Je fais de la peinture, je fais une sculpture. Là où ça avait du sens, c'est par la fierté qu'ils ont eue. Parce que tout au long de la soirée, ben, y avait des personnes qui venaient, ils ont leurs parents qui sont venus, C'est-à-dire que tout le monde était halluciné du nombre de personnes qui étaient présentes, et d'un mélange. Il y avait des agriculteurs de la région, il y avait des artistes du coin, il y avait des parents d'élèves. Ce qui fait qu'on voit que ça a eu du sens, c'est le fait qu'ils aient invité leurs proches, c'est le fait que la salle était pleine de personnes. Je m'étais attachée à tout le monde, des personnes qui faisaient le ménage, aux personnes. Ben, en fait, c'est aussi des personnes qui sont venues, et qui sont venues avec un pote, avec... En fait, je me suis dit, c'est possible, en fait. J'aurais jamais pensé que j'aurais une émotion. J'étais hyper fière de tout ces... Il y a un terme que j'aime bien, que je trouve moins en français, qui est en anglais, c'est les weirdos, quand on est un peu bizarre. Il y a une réappropriation un peu queer de ce terme, c'est-à-dire tout c'est bizarre. Et je me suis dit, en fait, c'est le bal des bizarres. Voilà, j'ai été hyper émue par leur puissance.
Puis Anaïs, elle travaillait en atelier ouvert, c'est-à-dire que dès le début, elle a dit, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir, on peut faire des ateliers de travail de la...
Porcelaine.
Porcelaine, merci Anaïs. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a pu se trouver ensemble des profs, Anaïs et des élèves en train de faire la même chose qui n'avait rien à voir avec ce pour quoi on est au lycée, c'est-à-dire qui n'avait rien à voir avec, en gros, l'apprentissage. Mais on était en plein dans l'apprentissage parce qu'on était dans une relation différente. Au même moment, avec des élèves, on faisait la même chose. On était intéressés par le même truc qui n'avait rien à voir avec les préoccupations du cours, de l'interro prochaine, de l'évaluation qu'on aura au mois de juin, etc. Non, c'est très riche, ce genre d'expérience, c'est très riche. Si on veut un pays en équilibre, si on veut un pays tolérant, si on veut un pays dans lequel les gens se parlent au lieu de se tourner le dos, c'est là que ça commence, c'est ici que ça commence, quoi. C'est capital. C'est capital, ouais.
Les professeurs de bûcheronnage m'ont invité à un chantier qui a duré 4 jours en forêt d'Orléans.
Baptiste Fontperrine, artiste en résidence à Beaune-la-Rolande en 2017.
L'idée, c'est de faire une grande peinture, c'est un concert de tronçonneuses. Parce que le moteur, pour les élèves bûcherons, c'est un outil presque central, quoi. Le moteur de la moto qui les amène à l'école, le moteur de l'engin, le moteur de la tronçonneuse qui se sert parce qu'on ne sait pas l'utiliser, qu'on n'a pas mis la... Enfin, c'est vraiment le poumon du tronçonneur. Et en même temps, ils prennent un... Il y a quelque chose dans la sensualité du bruit du deux-temps qu'on fait éclater dans la forêt en hiver. Il y a quelque chose qui se passe là. Ils étaient 12, c'était bon, que des garçons. Et en équipe de deux. Et la forêt retentissait de leur action. Et ça, je pense que c'était un témoignage qui résonnait chez eux, ouais. Pour à la fois les amuser, en essayant de respecter le couleur des marques de tronçonneuses, parce qu'ils étaient très soucieux de la marque de leurs vêtements, entre les Husqvarna et les Stihl. C'était une manière de leur dire que je comprenais leur langage, quoi. Je comprenais y a les outils, qu'il y a le soin aux outils, voilà, que... On choisit son outil, voilà.
Ce qui est génial, c'est quand ça fonctionne, quoi. Quand l'incitation, elle provoque la rencontre et quand les élèves s'intéressent au projet.
Gaëlle Villedary, artiste en résidence au lycée horticole de Blois en 2021.
Viennent poser des questions, que à ce moment-là, j'arrive à les inviter à participer à l'œuvre et à venir avec moi commencer à travailler, à poser des questions, à être encouragée en fait à s'ouvrir le plus possible et que dans les questions qu'ils posent, il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, c'est tout cet espace-là qui est chouette.
Mes parents étaient agriculteurs, éleveurs, et j'ai envie de dire, de façon assez familière, voire vulgaire, j'ai vécu au cul des vaches.
Valérie Rinteau, chef d'établissement.
Et c'est vrai que dans le monde agricole, les artistes, ils passent un petit peu pour des huluberlus. Hein. Donc, je vois toujours, en fait, cette œuvre d'art qui est sur un rond-point, en arrivant dans une ville, qui n'est pas très loin de ma commune d'origine, où on a cette chose en fait d'ampleur qui est vraiment mais gigantesque, qui trône au milieu du rond-point. Et c'est vrai qu'à l'époque, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? Combien ça a coûté à la société? Parce que c'est ça aussi, la référence financière, elle est là, et puis elle est prégnante en fait dans les réflexions qu'il peut y avoir. Mais j'avoue que d'interpréter des œuvres d'art, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi. Alors c'est certainement mon cerveau qui est fait comme ça, hein. Peut-être parce que je n'ai pas été éduquée non plus à ça. Je n'ai pas eu cette ouverture en fait à l'âge que les élèves ont aujourd'hui, Ce qui fait que ça me semble important qu'ils aient cette ouverture. Je permets que les élèves puissent goûter, enfin les apprenants de façon globale, puissent goûter un petit peu à tout ça, à l'art, à la culture.
Je ne sais pas combien d'élèves vont s'en souvenir, mais quand même, c'est...
Sandrine Henry, professeure de SC.
C'est que la culture, elle est à tout le monde. La culture, c'est pas, c'est pour tout le monde, d'avoir de la sensibilité en regardant les choses, ouais. De l'émotion, de connaissance, de savoir, d'ouverture d'esprit. Voilà, bon, y avait des élèves qui avaient participé à un projet danse contemporaine. Et au début, ils me disaient, oui, madame, on va danser. Moi, je ne veux pas mettre de tutu et tout, c'est nul. C'est pas pour, en fait, ce n'est pas pour les gars, quoi. Ils sont allés voir le proviseur, mais madame Henri, elle veut nous faire danser. Et oui, puis c'est aussi de regarder la danse contemporaine différemment. C'est aussi des hommes qui dansent, c'est pas que des femmes. Voilà. Et quand l'intervenante est arrivée, c'était Sandrine Bonnet à l'époque, et puis c'était autour de Nadj, Joseph Nadj, ils ont fait un spectacle. C'était magnifique, quoi. Et je pense qu'ils ont vécu quelque chose de fort, quoi. Fort de qu'est-ce que c'est que de comment d'être avec un public. Ils prennent une estime de soi, le rapport à l'autre, oui, la confiance. Et puis peut-être qu'un jour ils iront voir la danse contemporaine. Pourquoi pas? Il y a une rencontre qui se fait, et puis on leur demande pas de devenir des historiens d'art ou des spécialistes de musique concrète ou de danse contemporaine, mais c'est surtout une approche, voilà.
Et le dernier jour du chantier, j'ai vu Lionel, le professeur de bûcheronnage, qui arrivait blanc comme un linge et à l'aide. Et donc un garçon s'était pris un coup de tronçonneuse dans le mollet jusqu'au tibia. Donc voilà, c'est ce que j'ai représenté. Pour moi, c'était important de le figurer, quoi, pour les étudiants qui ont vécu ça. Quand on les voit habillés dans leur habit de bûcheron, tout protégé, en carapaçonné, mais c'est presque comme des chevaliers, enfin, des mineurs, des personnages un peu héroïques, et ce qu'ils font, c'est un métier difficile, avec des dangers mortels, et c'était une manière de le matérialiser, de leur rendre pas hommage, mais je sais pas exactement, mais en tout cas de leur signifier que je comprenais où ils étaient, quoi. Enfin, que, en tout cas, ça avait fait quelque chose. Je voulais aussi les amener sur mon terrain. Enfin, mon métier, c'est fabriquer des images. Et j'envisageais la résidence comme une manière de les inviter aussi dans mon métier en allant voir le leur. Parce qu'a priori, il y a une sorte de barrière symbolique infranchissable entre le monde des images, le monde des œuvres figées, quoi, et a priori, ils estimaient que ce que je faisais n'avait pas d'intérêt, en fait, tout simplement, ouais. Et parfois, je les ai invités à participer à l'élaboration du tableau, ou en tout cas, toucher la matière qui permet de fabriquer le tableau. Ils m'ont aidé à tendre les toiles, ils ont participé, surtout à partir du moment où ils ont compris que je participais moi aussi à leurs activités. Et les faire rentrer dans l'atelier, les faire rentrer dans l'image, à les inviter à regarder l'image éventuellement pour créer une interprétation, parce que ça, c'était pas donné. Au départ, c'était comme, il y avait comme un refus, quoi.
Je trouve ça hyper riche parce que la résidence dure 3 mois. Là, on est à 2 mois et demi.
Julie Maréchal, artiste en résidence au lycée agricole de Beaune-la-Rolande en 2025.
Donc en fait, sur 3 mois, on a le temps de tisser des liens à la fois avec les élèves, mais aussi avec les personnels du lycée et notamment les élèves.
Il a un orteil.
Bah, j'ai entendu parler de Julie.
Louise.
Parce que j'avais demandé pourquoi elle était là et après j'ai appris. Après j'avais vu toutes ces images, les posters qu'elle avait mis et ça m'intéressait. Alors je suis venue à quelques cours et bah, c'est bien.
Je m'intéresse un peu aux ombres portées. Par exemple, les ombres d'une plante. on les voit sur le sol ou ailleurs, ou sur une page en papier qu'on peut mettre derrière. Et en fait, c'est hyper fugace, c'est hyper... des fois, c'est flou, et c'est pas... ça dure pas dans le temps, quoi. Les ombres sont aussi hyper intouchables, quoi. Donc ça m'intéressait de travailler cet aspect du végétal qui est difficile à capter.
En fait, j'aime beaucoup les plantes, et comme ça parlait de plantes et aussi d'ombres, c'était très bien aussi. La première fois que j'étais venue, il avait un tableau dehors où il avait un élève qui était immobile en train de tenir une plante. Il avait derrière un papier avec de la sorte de peinture verte dessus. Et après, elle nous a expliqué que c'était une technique de photographie avant que ça ait été inventé et que c'était avec l'ombre. Et que le produit qu'elle mettait sur le papier, ça réagit à l'ombre, et que si le produit est à l'ombre, ça fait une marque. Et plus c'est longtemps et plus c'est immobile, plus c'est visible.
C'est souvent le lieu dans lequel je suis et les gens que j'y rencontre qui déterminent en fait le projet. Et là, en fait, dans ce projet-là, l'idée c'était de rencontrer ce groupe d'élèves.
Julie Chaffort, artiste en résidence au lycée agricole de Bourges en 2014.
Et c'est surtout en fait en les regardant faire et les écoutant en fait, je me suis rendu compte qu'en fait ils ne connaissaient pas du tout le lieu dans lequel ils vivaient. Entre leur maison et le lycée en fait, ils le parcouraient en bagnole. Et ils connaissaient même pas les champs alentour, les agriculteurs alentour. Et tout d'un coup, c'est là où je me suis dit, il faut qu'ils aillent explorer ce qui se passe autour de chez eux. Et en prenant la carte, j'ai vu qu'il y avait un endroit qui s'appelait le bout du monde. Je sais pas, 40 kilomètres, même pas. Un lieu dit, le bout du monde. Et en me disant, ça peut être vraiment l'idée d'aller jusqu'à ce bout du monde ensemble. Et qu'est-ce qui se passe à ce bout du monde?
Et après, moi, on m'a demandé de mettre des objets dessus, sur le papier, avec le produit dessus, et j'ai mis un poisson. Et après, j'ai attendu, et elle nous a emmenés à sa salle, où elle avait un énorme seau d'un produit bleu, et après, elle a trempé la feuille dans... le produit, et après ça a révélé la couleur et ça a changé, et c'était très impressionnant parce que elle mettait le produit et genre ça a changé de couleur, ça devenait de plus en plus bleu et blanc, et après elle les a accrochés. Et en fait, dans les sentiments que j'ai ressentis, c'est de l'excitement parce que waouh, c'est, je l'avais jamais vu, c'était quelque chose de tout nouveau.
La marche, c'est aussi un rapport au monde qui est tout à fait différent. C'était ce qu'on voulait, c'était faire ralentir. Prendre le temps de regarder, de se sentir être dans le monde et au monde. On était tous habillés en cotte d'agriculteurs, parce que c'est des futurs agriculteurs. Et c'était aussi tout d'un coup d'avoir un costume commun. Donc les gens nous regardaient quand on passait dans un village. Donc on frappait aux portes des gens. La première nuit, on a dormi dans une salle des fêtes. La deuxième nuit, on a dormi chez un agriculteur dans son silo à grains. En fait, changer son quotidien, ça permet aussi tout d'un coup faire un pas de côté sur comment on regarde le monde et aussi comment permettre des ouvertures et de la discussion en fait, parce que c'est des futurs agriculteurs et tout d'un coup c'est bien aussi de rencontrer des agriculteurs qui viennent pas du même monde qu'eux.
L'art, c'est la plus grosse partie de ma vie, je pense. Donc,
Romain Targé, élève au lycée forestier des Barres.
Moi, ça me parle. Ouais, je ferais peut-être ce lien entre la musique, l'art et la forêt. C'est vrai que dans les deux cas, on se sent plus vivant. La forêt nous apporte son milieu naturel. C'est les êtres vivants qui y vivent. Et la musique nous rend plus vivants parce qu'on peut s'exprimer et on peut exprimer ce qu'on a au fond de soi. Et donc les deux nous rendent tous les jours plus vivants.
C'est quand on y est que là, c'est plus compliqué. parce que c'est là où les gens sont fatigués, c'est là où il pleut, c'est là où quelqu'un peut éventuellement se blesser ou se faire mal ou avoir mal aux pieds. C'est à ce moment-là, en fait, que c'est le plus fragile. À partir du moment où on est arrivé au bout du monde, à ce lieu-dit, où tout d'un coup, il n'y avait rien. Il y avait un pauvre champ tout boueux, il pleuvait en plus. Et là, ils pensaient qu'on allait les accueillir, je sais pas, qu'il y avait une farandole, des feux d'artifice, Neola, je sais pas, tout le lycée qui les attendrait, j'en sais rien. Mais là, rien. Et là, je crois qu'ils ont vu la portée de ce qu'on venait de faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont été complètement hébétés, complètement ahuris de ce rien, de cette chose un peu déceptive, d'être allé jusqu'à ce bout du monde pour en fait ne voir qu'un champ grisonnant et boueux. Donc je crois que là, tout d'un coup, oui, il y a des questions qui se sont posées. Pourquoi on a fait ça? Donc là, on a cru qu'on allait perdre la moitié du groupe. Ça, ils l'oublieront jamais, par exemple, ce moment-là. Parce qu'en fait, il ne s'est pas rien passé en fait sur ce chemin. On a rencontré des agriculteurs, ils ont vu aussi c'était quoi la générosité des gens, tout d'un coup, aussi nous accueillir une nuit, une quinzaine de personnes comme ça, dans leur silo à grains, de nous offrir le gîte et le couvert, tout d'un coup, c'est aussi une humanité qui s'ouvre, voilà.
Et après, ça faisait une longue musique qui se continuait et qui était très impressionnante, parce que c'était complètement aléatoire. Mais c'était beau quand même. En fait, sur certaines plantes, c'était plus un peu chaotique, mais on a d'autres, c'était plus tranquille, avec de l'écho. Au début, je me disais, c'est quoi ça? Et après, je continuais à écouter et c'était impressionnant, bizarre, intéressant. Explosion, je sais pas. Ah! Je ne sais pas. Et j'en ai parlé à mon frère et à ma mère, mais ils n'étaient pas vraiment impressionnés. Ils ne l'avaient pas vécu, alors ils n'étaient pas vraiment impressionnés. C'est mieux de l'avoir vécu que le dire. On sent toutes les émotions. Si on l'a vécu, là, on sent beaucoup d'émotions. Ah!
Là, c'est les ateliers qu'on avait fait à Dreux et certains à Bourges. Et là, en fait, je suis en train de monter donc, sur les tiges. Donc là, c'est des tiges métalliques.
Anaïs Dune, artiste en résidence au lycée horticole de Blois en 2024.
Et donc, petit à petit, j'agrémente l'installation avec les pièces qu'on a fait ici. Et donc, c'est marrant. Donc, il y a une des dames de ménage, là, qui, depuis que j'installe, elle fait « Ah, mais j'ai cherché ma pièce, je ne l'ai pas encore trouvée et tout. » Et j'étais « Ah, elle n'y est pas encore, mais elle y sera bientôt. » Donc, c'est marrant. Enfin, je me disais que ça pouvait faire un jeu aussi de où est Charlie. Enfin, en tout cas, retrouver son élément. Après, c'est dans un, voilà, dans un univers. Mais c'est chouette. J'aime bien aussi le rapport... chacun avec son travail.
Vous me direz si vous trouvez les vôtres.
On a cherché.
On va essayer de chercher.
On s'est battu avec ma collègue. Ça, c'est les miens. Ah non, ouais. C'est pas toi qui a fait ça.
Je sais pas, non, mon Dieu. Non, ça, c'est pas vous.
C'est moi.
C'est clair. Vous aurez un mois pour ça.
Voilà, Nathalie, c'est ça. Christelle, Yourine et Jacqueline.
Merci beaucoup de nous avoir permis de participer à ce projet. On est agent d'entretien, on s'occupe du ménage dans tout le lycée, dans l'internat, dans les classes, dans les couloirs, les toilettes.
Les bureaux,
on fait tout, on est multitâche. Et puis quand il y a besoin, en renfort aussi en cuisine de temps en temps.
On a demandé à notre chef pendant le temps de travail. On a demandé une heure.
Si on pouvait avoir l'autorisation. C'est parce que là, ça nous donnait envie. On voyait que c'était un beau projet à faire. Et puis bon, voilà, manipuler, moi j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est, quand on a vu que vous vous proposiez de faire à des élèves, comme le personnel, ouais, à ça, qui voudra, ben c'est là qu'on se dit, on vient. Voilà. Donc on est content, on est fiers d'avoir participé, voilà. Et on a eu l'autorisation, et nous, ce qui nous a plutôt arrangé, c'était le lundi.
le lundi, juste avant à la fin du travail, on a pris une heure avant de partir. Et puis du coup, c'est là qu'on a, parce que le lundi, on a, c'est là où qu'on a le moins de travail. Donc du coup, on en a, mais voilà, moins que les autres jours. Du coup, on a calé cette heure-là de 13h30 à 14h30.
Et du coup, c'est quand vous faites l'exposition ou c'est...
Eh ben, le vernissage, ce sera mardi à 18h. Mais ça va rester, par contre, jusqu'aux vacances de février.
D'accord. Okay, d'accord.
Du coup, dans la grande serre, en tout cas. Et puis à la bibliothèque aussi, je vais mettre un aquarium.
Ah, c'est joli. C'est voilà. Très joli.
En tout cas, oui, on a trouvé ça très, très joli.
Ouais, chouette.
C'est avec les lumières, ça donne super bien.
Ouais. Voilà. J'ai hâte que vous voyez vos formes aussi.
On a essayé de chercher, mais on n'a pas trouvé.
Avec qui, Henri?
On n'a pas trouvé.
Ça, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi qui a fait ça.
Ah, le souvenir.
Non, c'est vrai qu'on a essayé. On a essayé de voir, mais on n'a pas trouvé. Pour l'instant.
J'ai essayé
de faire une étoile. J'ai essayé aussi également de faire un genre de serpentin qui se tourne autour.
Une espèce de petite spirale.
Voilà, spirale, je cherchais le mot.
Et vous aviez fait aussi une espèce d'étoile, c'est un pollen, je crois.
Et je me souviens aussi d'avoir fait comme un petit sabot, j'appelle ça, avec des trous dedans.
Oui, ouais.
J'ai fait ça aussi. Mais bon, je n'ai pas trouvé, donc je ne désespère pas.
Mais vous allez pouvoir prendre le temps de faire ça.
Voilà.
Ça va être le petit challenge.
Les enfants, ils ont bien, vraiment, c'était bien fait. Ce que les enfants, ils ont fait, surtout celles-là qui ont... C'est magnifique.
Ouais.
Non, franchement, c'est très, très, très beau. Ouais. Et très...
Est-ce que vous avez vu avec la lumière...
Ultraviolet,
ouais, ultraviolet.
Oui, c'est ce qu'on vous disait. Ça fait un fond de...
Depuis
ce matin.
Parce qu'hier, ce n'était pas allumé comme ça.
Ouais.
Et ce matin, avec ma collègue,
c'est
ce joli.
En passant. Quand il fait nuit, du coup, c'est cool quand il fait nuit.
Non, franchement, c'est beau. C'est beau.
Chouette.
On a vu ça ce matin.
Après la pause, moi, quand je suis passée voir...
Ouais, juste un peu avant 8 heures, j'ai dû le voir. Je dis, waouh, c'est joli, dis donc. Ouais, c'était ça. On l'a vu à ce moment-là. J'arrive pas à trouver le mot, mais non, c'est très bien.
Et je me dis, chaque personne qui a participé a eu un rapport singulier avec la terre, avec le matériau. Et c'est vrai que moi, je suis en mesure aussi presque de dire qui a fait quoi. C'est marrant, enfin, à quel moment. Enfin, je me rappelle peut-être pas toutes, mais en tout cas une grosse partie des pièces. Je me rappelle qui les a fait, comment et à quel moment. Et j'aime bien la manière dont chacun se l'approprie. Enfin, mais donc je me dis que les pièces qu'on a fait ici, je vais les mettre plutôt devant. Enfin, je ne vais pas les mettre tout là-haut, je vais mettre les pièces qu'on a fait tout là-haut avec des autres. Donc d'avoir un peu plus le rapport au travail qui a été effectué ici. Donc c'est chouette aussi de voir ça parce que je n'avais pas cette dimension-là moi non plus.
Ouais, du coup, quand je suis arrivé, c'était tout... Il y avait ces grumes de séquoia qui étaient sur le sol.
Jonathan Roditi, artiste en résidence au lycée forestier des Barres en 2025.
Des grumes, c'est des arbres qui ont été abattus, auxquels on a retiré les branches, et qui sont encore à leur position initiale dans la forêt. Et c'était des herbes sauvages tout autour, quoi. Et donc on a débroussaillé tout ça, et on est venu extraire le bois vraiment sur place. Et donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs grumes, il y a celle qui est là-bas, là. Elles ont été découpées pour faire des plateaux. Donc on a utilisé ce qui s'appelle une gruminette, un guide pour tronçonneuse. Donc en fait, c'est un peu comme une règle qu'on va brancher sur une tronçonneuse et qui va nous permettre de découper des planches droites sur la longueur du bois. C'est-à-dire que je suis dans une forêt et moi, je dérange ici. Euh, je dérange. Là, on entend tous les oiseaux qui sont en train de se raconter plein de choses. On est sur un arbre qui était l'habitat de sûrement plein d'insectes. Et je viens et je fous le bordel complètement. Là, j'arrive avec une tronçonneuse. Je fais énormément de bruit pendant plusieurs journées. Je fais plein de sur de bois. J'écrase des choses. Et en fait, je viens imposer pendant une période une violence à un lieu qui... Bon, c'est un peu ma vision de voir que dans un lieu de la forêt, il n'y a pas de violence. Je pense que si on regarde différemment, on peut trouver de la violence partout. Mais en tout cas, moi, dans mon œil, c'est avec mon œil, c'est vraiment un endroit hyper paisible. Et du coup, j'essaie de faire un peu gaffe quand même. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est-à-dire aller dans un autre milieu socio-culturel, un autre environnement naturel. Donc là, la première partie du projet, c'est de comprendre l'écosystème d'un lieu, comprendre qui est le gestionnaire, qui sont le personnel, c'est quoi leurs intérêts à tous, les élèves, les différentes sections, les professeurs, c'est quoi les débats et les problématiques entre les différentes personnes qui habitent ce lieu. Et c'est des questions qui sont essentielles à la réussite d'un projet, qui sont très complexes aussi. Enfin, moi, même pas plus tard que ce matin, il y a eu des frictions avec certaines personnes du personnel. Et moi, c'est des choses qui me tiennent vachement à cœur, mais c'est des choses qui souvent arrivent parce que moi, j'arrive comme un élément extérieur à plein de niveaux. Donc extérieur parce que je ne vais pas rester très longtemps au final, par rapport à la vie de l'établissement, par rapport aux gens qui travaillent dans ce lieu. Je prends beaucoup de place parce que je vais utiliser tout l'atelier, je vais ramener 15 élèves dans l'atelier, je vais faire une construction qui fait 10 mètres de diamètre en plein cœur du lycée, je vais faire plein de sur de bois, je vais faire plein de bruit. Et en fait, ça, pour arriver à que tout le monde se dise « super, il y a ça qui se passe », c'est un travail. Et moi, des fois, j'ai l'impression d'y arriver, des fois, j'y arrive moins. Ce matin, par exemple, il y avait une personne qui était visiblement pas contente de ma présence. Ici, ça dîne à 18h40, et des fois, je suis un peu en retard au dîner. Et donc, ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver à 19h30, et du coup, les personnes qui débarrassent, ils doivent m'attendre, c'est pas très sympa. Et c'est vrai. Et moi, je me suis excusé, et je pense que c'est des choses que... Donc moi, c'est vrai que quand je travaille, et que je suis un peu lancé dans mon travail, je regarde l'heure, je dis « Ah, merde, il est 19h20, et j'ai pas faim, mais il faut que je mange, parce que c'est maintenant que tout le monde mange, et je suis déjà en retard ». Et du coup, ça crée des tensions, en fait, au fur et à mesure.
Vous dérangez dans la forêt, vous dérangez au lycée.
Mais c'est vrai. Mais c'est une signe de la transformation, c'est aussi une destruction. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on extrait des choses, on transforme des choses, donc... en fait, il n'y a rien qui est vraiment créé, il y a des choses qui sont détruites et qui sont transformées, qui deviennent d'autres choses, et on transforme. Et donc quand on transforme les choses de manière assez vite, assez rapide, on détruit des choses. C'est le temps, et le temps, moi je ramène aussi le temps de la ville, je ramène le temps de mes... j'ai des volontés qui sont de... j'ai 3 mois, je vois ce que je suis capable de faire en 3 mois en termes de projet, j'ai déjà fait des choses en encore moins de temps, et j'arrive, je travaille comme un dingue, je fais plein de choses, et c'est un peu violent en fait. Et moi je me rends compte des fois sur mon corps, à la fin d'un projet, je suis exténué de manière pas naturelle, c'est pas un travail que... En tout cas, c'est pas un travail que j'ai forcément appris à faire dans la douceur. Et je pense que moi, maintenant j'ai 34 ans, je pense que ce que j'espère devenir une forme de maturité chez moi qui devrait arriver un jour peut-être, c'est de faire des travaux plus dans la douceur. C'est-à-dire que j'arrive encore à avoir des tensions sociales avec des gens avec qui je travaille. Et ça, c'est des échecs pour moi. Donc changer l'ordre des choses, en fait, ça cause toujours des problèmes. Et c'est comme ça, hein. Moi, c'est pas pour dire que j'ai envie d'arrêter de changer l'ordre des choses, mais j'ai envie d'arriver à le faire en douceur, au maximum.
Et là, c'est des chênes autour qu'on voit.
Marine Hubert, élève au lycée agricole de Beaune-la-Rolande.
Là, ils sont marqués en rouge parce qu'ils vont être coupés. Là, il y a des pins sylvestres derrière, il y a des bouleaux. Mais oui, la plupart, c'est des chênes.
importance de forêt, de toute façon. La production principale, c'est le chêne.
Je sais que la forêt, c'est fait pour être exploitée.
Dans ma formation, on nous apprend à regarder la forêt pour voir combien elle nous ferait en argent, pour qu'elle nous rapporte le maximum. Depuis que j'ai su compter, je sais à peu près quantifier une forêt, un tas de bois, grâce à papa. Lui, il travaillait dans un porteur. Un porteur, c'est un engin qui débarde le bois qui a été coupé au préalable par la batteuse. Et après qu'il entasse en bord de route pour que les camions puissent venir les chercher et les emmener aux usines de transformation.
Moi, j'ai pris beaucoup de photos pendant qu'ils étaient en train de travailler. J'ai beaucoup motivé les troupes.
Rachel Pelletier, professeure de SC.
J'ai porté quelques planches aussi. Pareil, j'ai appris auprès de Jonathan les techniques de mise en œuvre du bois. Et voilà, j'ai suivi, pareil, toute l'approche sensible au niveau du paysage. On est allé avec les élèves chercher l'endroit idéal pour poser le projet. Donc, on se posait des questions très intéressantes. Est-ce qu'on se sent bien à tel endroit? Pourquoi est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'autour de nous, les arbres sont disposés d'une manière à faire comme une espèce d'alcôve? Est-ce que c'est un endroit passant? Enfin, est-ce que ça a un sens de l'installer ici? Donc, effectivement, c'était une autre approche, je pense, pour les élèves par rapport au paysage. Ça remet les choses en perspective aussi dans leur formation, de se poser ce type de questions. Parce que parfois, ce sont des techniciens qui, justement, dans leur formation, sont beaucoup plus pragmatiques. Donc là, justement, l'approche sensible, tout ce travail de réflexion, ça a mis un petit peu de temps pour la mise en place. Mais une fois que ça a été parti, ça y est, le navire voguait. Et c'était magnifique, au contraire, de les voir. À la fin, c'était la fabrique du Père Noël avec les petits lutins. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tourner sur les ateliers. C'était beau à voir, justement, ce sens du collectif.
Et la démarche artistique, ça leur faisait peur?
Je pense que oui, c'était un peu effrayant de se laisser aller à justement des domaines un peu plus éthérés que le côté vraiment technique de leur formation. Ils ont pour la plupart quand même une conception très, très pragmatique parfois de la nature, très concrète des choses, et se laisser aller à rêver, à imaginer, en fait, c'est pas inné. Justement, on se l'autorise pas forcément tout de suite. Donc, c'est comme une réouverture de son esprit à justement la sensibilité, l'imagination. Et si on avait toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble? Quelles sont les contraintes? Je pense que c'est un questionnement qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et que c'est formateur pour eux aussi, même au niveau des individus qui ils vont être plus tard.
Je connaissais pas, j'avais pas envie, j'avais besoin de bouger, de voir dehors. Puis Pascal, elle était toujours là, en train d'encourager à faire quelque chose, elle voulait voir quelque chose. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des choses. Et après, j'ai mis ma main sur le mur. Parce que je trouvais ça marrant de le faire alors que maman, elle l'a toujours interdit de dessiner sur les murs. Un jour, on voit un camion du lycée qui arrive avec une remorque pleine de perches de bouleau. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est Pascal qui avait demandé ça pour pouvoir faire après une espèce de tipi avec dessus de la terre mélangée à de la paille. Et donc là, on s'est dit, nous, avec des perches de bouleau, on ferait pas ça. Soit on le laisserait grandir et on en ferait de la trituration, ou alors une perche comme ça, on en fait de la plaquette et du bois d'énergie. Alors qu'elle, elle en a fait une œuvre. Ça nous a laissé sur le cul, carrément. Enfin, ça nous a, laissé bouche bée. Voilà, j'arrivais pas à trouver le terme poli. C'est vraiment une toute autre manière de penser. Nous, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait même pas pensé à le faire. Je me suis dit, ça sert à rien. Au final, ça va être des bouts de bois qui vont prendre l'eau, ils vont pourrir. On s'est dit, avec le vent, ça va tomber. Donc, non, pas du tout. C'est resté en place. C'est grâce à cette activité, à cette structure qu'on a fait grâce à Pascal,
Maintenant, mon regard de la forêt, il a un peu changé, pas complètement, mais il y a des forêts que je peux trouver belles, mais juste dans le sens, elles sont belles, enfin pas sans chiffres, sans chiffrer la forêt. J'arrive à la trouver belle sans la chiffrer. Alors, avant, je voyais une forêt, je voyais tout de suite, enfin, je la qualifiais de belle si elle pouvait faire beaucoup d'argent et de pas belle si elle servait à rien, au final. Enfin, pas elle servait à rien, mais elle rapportait pas grand chose. Alors que, ouais, maintenant, j'arrive à voir une belle forêt sans voir les chiffres qui sont derrière. Parce que c'est Pascal qui m'a transmis ça.
5, 4, 3, 2, 1.
Épilogue.
Vous savez, quand on s'amuse, les autres s'amusent, en fait. Les élèves s'amusent quand on s'amuse soi-même, ou quand les artistes prennent du plaisir. Ou... Donc, en fait, oui, il y a eu des échanges de plaisir, de découvrir des choses, des choses différentes chaque année, des élèves qui, en 3 ans, parce qu'il reste quand même 3 ans à l'établissement, hein, seconde, première, terminale, en 3 ans, ils découvrent encore... plein d'activités culturelles, artistiques, avec des gens différents. Mais en 20 ans, j'ai quand même un élève qui est devenu un artiste. J'en suis fier. C'est bien. Un élève qui est devenu un artiste professionnel. Voilà. Et il fait des installations. Mais il était complètement dans l'agriculture. Je crois qu'il était vraiment au début, il se destinait à l'horticulture. Et il a changé de voie. Il m'a envoyé des mails après, quand il était parti de l'école, du lycée. Et en me disant, voilà, vous pouvez voir une de mes expositions à tel endroit. Il a dû être très sensible à ce qu'on a fait, évidemment. Et voilà, il a dû vriller un moment, comme on peut dire.
Seulement voilà le nom de cet ancien élève.
Alors, où est-ce que ça peut être, ça ?
Philippe Clos, professeur de SC à Blois, ne s'en souvient pas.
Comment on pourrait faire ? Il a fait une exposition à Tours, à la... Alors, il faut retrouver ça, moi je ne sais pas. Comment on pourrait faire pour retrouver son nom ?
Alors, tous ensemble...
Trouver peut-être cette personne étrange qu'on cherche.
On cherche.
Le seul artiste vivant.
On cherche.
Ressorti du lycée horticole de Blois.
On cherche encore. Et puis finalement, à force de triturer la mémoire
en fait,
du prof...
Vous avez reçu un carton d'invitation.
Ouais.
Si dans votre moteur de recherche de mail, vous tapez...
D'entrée d'incroyables combinaisons dans notre moteur de recherche, eh bien on trouve un nom, Cyril Courte. Puis un jour...
Oui, hello, c'était Cyril Courte. Je vous rappelais, je me rappelle bien de Philippe Clos et de mes années au lycée horticole de Blois. Et au plaisir, je vous rappellerai demain. Au revoir.
Ensuite, avec Cyril, nous nous écrivons plusieurs messages.
Oui.
Puis nous convenons d'un rendez-vous au lycée horticole
peut-être
de Blois.
Moi,
ce jour-là, Cyril est très ému de revenir sur les lieux 10 ans après.
Moi, en tout cas, dans le monde vivant et le monde végétal...
Nous l'enregistrons. Et puis vient l'idée de le mettre en scène pour qu'il raconte comment l'ESC et une résidence d'artiste ont radicalement modifié sa trajectoire.
C'est pas évident parce qu'en fait, ça me vient, mais vraiment de manière comme des petits flashs.
Ce soir-là, équipé d'une tenue de cosmonaute et d'un micro Madonna, Cyril Courte est sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio, devant plus de 300 personnes.
Alors, merci, Philippe Clos. C'était il y a 20 ans. Alors, oui, c'est vrai, j'ai bien vrillé. Enfin, en tout cas, grâce à vous, grâce à l'ESC, hein, eh ben, j'ai pu, plus tard, trouver enfin ma voie. Bonsoir, je m'appelle Cyril Courte, je suis artiste et je suis passionné par la foudre. Pour moi, tout ça, c'était un accident. Juin 2004, je prends une revue d'orientation et puis je la survole à la vitesse du flipbook, les yeux fermés. Comme ça, je compte. 1, 2, 3, 4. Voilà, je rouvre les yeux. Je regarde où est-ce que j'ai mis la main, là, au hasard. Et puis, bah, je lis Bac Pro TCV PHJ. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez, non? Ouais, bah, non plus, hein, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, bah, j'ai lu ce qui était écrit en dessous, hein, les initiales. Bac Pro Technicien Conseil Vente en Produits Horticoles et de Jardinage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, à cette époque, j'étais un peu paumé, je ne savais pas trop quoi faire dans la vie, donc bah, à défaut de rien d'autre, j'ai pris ça. Du coup, bah, je me suis inscrit dans un lycée horticole de ma région, le lycée horticole de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et puis bah, voilà comment j'ai atterri là-dedans. Bon, après, quand même, bah, ce que j'ai aimé, quand même, bah, c'était apprendre les noms des végétaux, par exemple.
Epiphyllum anguligère, Salix matsudana tortuosa, Cereus spiruvianus spiralis, Cephalocereus senilis, Taxodium distichum, Cotinus cogigria, Jovibarba sempervivum hirta, Actinidia colomicta, Physalis alkekenji, Diospyros kaki ginkgo biloba, Sequoia dindron giganteum pandulum, Acer pseudoplatanus leopoldi.
Bah, mes souvenirs, après tout ça, de l'ESC... Ah si, je me rappelle d'un truc. Bah, je me rappelle d'un gars un peu chelou. C'était un artiste. Ouais. Ah ouais. Bah, qui avait été invité par notre prof de SC, Monsieur Clos, pour faire en résidence, hein, pour une création artistique. Je me rappelle de lui, là, il était en train de bricoler dans son bocal, le patio, dans le hall du lycée. Il y a même un soir, une fois, il avait complètement enfumé tout son bocal, et puis on le voyait là, en train de nager là-dedans, là, comme ça. Je crois même qu'il était à poil, je crois, de souvenir. Bon, j'ai pas trop compris quoi, qu'est-ce qu'il faisait. Bon, d'accord. Le prof de SC, bah, il a dit que c'était une performance. Ah, ouais. Aujourd'hui, certains penseront que je suis toujours aussi paumé. Parce qu'avec tout ça, bah, en fait, bah, moi aussi, je suis devenu... Ouais. Zut, alors. Artiste, bah, plus facile à dire qu'à faire. Enfin, moi, je dirais même qu'à être, surtout. En ce moment, mon envie, c'est de travailler avec une matière assez capricieuse. La foudre. Alors là, bah, j'ai bricolé une rampe de lancement. Bah, vous pouvez constater, hein, pour lancer une fusée. Vous connaissez l'expérience décrite en 1752 par Benjamin Franklin ? Vous savez, celle avec un cerf-volant pour aller chatouiller les nuages d'orage, quelle bonne idée. C'était pour démontrer la nature électrique de la foudre. Et il se trouve qu'en Auvergne, en Haute-Loire, il existait un centre, hein, entre les années 70 et 90, une station de lancement de fusées, la station foudre de Saint-Privat-d'Allier, d'où étaient lancées des fusées suivies d'un petit fil de cuivre en direction des nuages d'orage. Très très bonne idée. Ce qui a permis à ces chercheurs de déclencher la foudre en ligne droite vers les instruments, directement au sol. Et c'est exactement ce que je vais reproduire ici ce soir. C'est pas plus compliqué que ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
C'était Par-dessus la haie, Centre-Val de Loire, 20 ans de résidence artistique en lycée agricole. documentaire de Rémi Dibowski-Douat et Pauline Mocor, produit dans le cadre de la résidence de recherche et de création artistique au sein des établissements d'enseignement agricole en région Centre-Val de Loire. Merci à l'ensemble des établissements du Centre-Val de Loire qui nous ont accueillis, les élèves, les artistes et les personnels, la DRAF et la DRAC Centre-Val de Loire, la région Centre-Val de Loire et le réseau d'action culturelle de l'enseignement agricole public.